Bonjour, chers amis auditeurs, soyez les bienvenus pour un nouveau volet du Libre Journal des Cultures et de l'Exploration en cette période de rentrée scolaire et littéraire. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver en direct, ainsi que Michel, pour continuer à vous faire voyager à travers les époques, les pays et les cultures. Je vous propose aujourd'hui une émission consacrée à l'Empire byzantin du XIVe siècle. Au moment de son déclin, une période de l'histoire byzantine fort mouvementée et très mal connue. Et plus particulièrement à la ville de Thessalonique, qui était la seconde ville de l'Empire, comme on va le voir, qui était également alors en ébullition, voire au bord de la guerre civile. Alors, il s'avère qu'une historienne byzantiniste reconnue, Marie-Hélène Congourdeau, a eu l'idée, l'excellente idée, de nous faire découvrir cette période en publiant cette année chez Salvator un roman policier historique intitulé « Le juge de Thessalonique ». Alors, il s'agit d'un ouvrage captivant, aux intrigues multiples et rondement mené par un juge, le juge Thomas. Et ce livre est extrêmement bien documenté et très instructif au plan historique et culturel. Marie-Hélène Congourdeau nous fait découvrir la belle ville de Thessalonique, du palais épiscopal au quartier des Vénitiens, en passant par les tréfonds crépuleux de la ville basse. Son juge devra user de sa sagacité et de son autorité pour naviguer entre les conspirations, démasquer les menteurs, et puis également sauver sa vie à mesure que les menaces se resserrent sur Thessalonique. Marie-Hélène Congourdeau, bonjour, soyez la bienvenue dans cette émission.
Merci, bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes historienne, donc spécialiste du monde byzantin et ancienne chercheuse au CNRS. Vous avez publié de nombreux ouvrages universitaires sur l'histoire byzantine et l'histoire religieuse, mais aussi des romans dont Le silence du roi David, publié aux presses de la Renaissance et qui a obtenu le prix du premier roman de l'Université d'Artois en 1999. Le juge de Thessalonique, que vous nous présentez donc aujourd'hui, est votre quatrième roman et votre premier roman policier historique. Et j'avoue qu'on souhaite à vous lire qu'il ne soit pas tout seul. Voilà, ce qui m'intéresse avec vous dans cette émission, c'est d'aborder dans un premier temps en fait, tout le contexte historique, politique à l'époque de l'Empire byzantin, et puis bien sûr de Thessalonique, et ensuite de nous attacher à cette ville, à son caractère, à son organisation, à ses graves tensions à l'époque, mais aussi à ses richesses culturelles. Voilà. Et tout cela, bien sûr, chers auditeurs, afin de vous permettre eh bien, de mieux apprécier ce roman policier historique vraiment de qualité. Alors, commençons par, je dirais, le tout début. Je vous demanderai des demandes de définition pour que les choses soient bien claires en ce qui concerne cette période. Qu'est-ce qu'on entend par Empire byzantin, Marie-Hélène Congourdeau?
Alors, l'adjectif byzantin n'est pas d'époque. Il a été inventé par les historiens postérieurs, avec un petit côté un peu méprisant. Vous savez, le terme de byzantin, ça montre une certaine infériorité par rapport à l'Occident. Et ce qu'on appelle donc Empire byzantin, c'est en fait l'Empire romain d'Orient. Parce que l'Empire romain au IVe siècle a été divisé en deux parties parce qu'il était trop grand pour être gouverné. Et la partie occidentale qui avait Rome pour capitale est tombée au Ve siècle. Mais la partie orientale de l'Empire romain, avec Constantinople comme capitale, Constantinople dont le nom antique était Byzance, d'où Byzantin.
Voilà.
Cet empire a duré jusqu'en 1453, c'est-à-dire qu'il a survécu 1000 ans à la chute de Rome. Et donc c'est l'Empire romain d'Orient, ce que nous appelons byzantins s'appelaient eux-mêmes les Romains. Ils étaient les Romains. Les Romains, c'était eux.
C'était eux. Et, voilà. Et comme il y avait la Romanie aussi.
Alors, la Romanie, c'est une façon aussi de désigner cette partie orientale de l'Empire romain. Et le terme de Romanie insiste bien sur le fait que c'était l'Empire romain.
Alors, comme vous le dites, cette dénomination, donc, finalement, est assez récente, mais les historiens ont commencé à évoluer sur comment dire, l'importance de Byzance, de cet empire byzantin, et notamment avec ce mot de donc, byzantin, comme vous le disiez, hein, qui a un côté péjoratif, voire décadent. Et il y a vraiment, on peut dire, vous m'avez aussi appris les liens entre la France et donc cet empire byzantin, avec l'existence... Alors, aujourd'hui, donc de façon contemporaine, avec l'existence d'une grande école d'histoire byzantine en France.
Oui, oui. Il y a des byzantinistes maintenant un petit peu partout dans le monde. Par exemple, il y a eu un congrès international cette année à Vienne qui a réuni, je crois, 1400 participants de tout pays.
Tout de même.
Absolument, oui. Du monde entier. Mmh. Et il y a même des Chinois et des Japonais. Je veux dire, quand je dis le monde entier, c'est oui. Le monde entier. Et
la relation donc du coup avec la France langue et je crois que la langue française
est importante
aussi. Et il y a donc
une école française d'histoire byzantine qui est très ancienne et qui est très importante étant donné que jusque récemment la langue officielle dans les réunions internationales était le français. Les statuts de l'Association internationale des études byzantines sont rédigées en français. C'est la version française oui. Qui fait foi si on a un doute sur les traductions. Donc, l'école française de byzantinologie est vraiment très importante.
Et alors, c'est intéressant de savoir que la langue française, jusqu'à oui. Une époque très récente, était encore la langue parlée donc, au plan international.
Au en plan tout cas, international, c'était la langue officielle.
C'était la langue officielle. Et je crois que, et puis dès la fin du XIVe siècle, il me semble que les relations étaient plutôt positives aussi entre la France et Byzance.
Alors, oui, alors ça, c'est un problème. Disons que, bon, moi, il y a un incident qui me paraît très significatif. C'est que à la toute fin du XIVe siècle, il y a eu un premier grand siège de Constantinople par les Ottomans et l'empereur byzantin, qui s'appelait à l'époque Manuel II, paléologue, a fait un grand voyage en Occident pour demander du secours,
oui.
Pour demander qu'on lui envoie des renforts. Mmh. Et il est allé à Paris. Et à Paris, il a rencontré le roi Charles VI. Qui lui a promis des renforts. Ensuite, il est allé en Angleterre, puis il est revenu en France, mais pendant son séjour en Angleterre, le roi Charles VI était devenu fou.
Et oui, le roi fou.
Et donc, les renforts ne sont jamais venus, et Manuel II est revenu à Constantinople avec des promesses. Simplement.
Simplement des promesses.
Simplement des promesses.
Alors, je sais que vous êtes passionné par ce sujet depuis de très, très nombreuses années. Vous avez édité donc, de nombreux ouvrages. J'ai dans les mains notamment les actes d'un colloque que vous avez dirigé, donc, intitulé Thessalonique au temps des Zélotes, donc 1342-1350. On le voit. Et je voulais vous demander maintenant de replacer vraiment aussi dans ce contexte, parce que vous nous parlez effectivement donc de la fin du XIVe siècle, mais pour que nos auditeurs comprennent bien cette période dans laquelle se situe le roman, est une période qui vient tout juste après deux moments importants à Constantinople, c'est-à-dire la prise de Constantinople par les croisés,
oui.
Lors de la quatrième croisade, et puis ensuite... et puis l'établissement, bien sûr, d'un empire latin de Constantinople. Oui. Et puis ensuite, les Byzantins qui reprennent Constantinople et qui sont repliés à Nicée.
Voilà. Alors donc, ça se passe avant notre période,
voilà.
Puisque la prise de Constantinople par les croisés, avec la quatrième croisade, c'est 1204, donc début 13e. Cela dure, l'empire latin de Constantinople, qui avait donc absorbé une partie des territoires byzantins, dure jusqu'en 1261.
Oui.
Là, Constantinople est reprise, une partie seulement des territoires est reprise, et on a le début d'une nouvelle période, qu'on appelle la période des paléologues, parce que l'empereur, qui donc a repris Constantinople et ses territoires, c'est Michel VIII, paléologue, et que jusqu'à le dernier empereur en 1453, c'est Constantin XI, paléologue. Donc on parle de la période.
Il y en aura 11 à peu près, une dizaine de d'empereurs paléologues.
Je ne les ai pas comptés, oui. Mais il y en a pas mal.
Il y en a beaucoup. Alors à cette époque, donc là, on revient à notre époque, donc 1346. À laquelle se passe le roman. Les menaces, étrangères surtout, sont de toutes sortes et aux portes vraiment de l'empire.
Oui, tout à fait. L'Empire ottoman commence à devenir important. Hein. C'était tout d'abord un petit émirat, mais il s'est mis à englober d'autres émirats turcs en Asie mineure. Et il devient de plus en plus menaçant, de plus en plus puissant. Mais il y a, ça c'est à l'est, mais il y a, à l'ouest, il y a toujours les Occidentaux qui aimeraient bien reconstituer cet empire latin qu'ils avaient au XIIIe siècle. Au nord, vous avez les États balkaniques, dont le plus puissant à cette époque, c'est l'Empire serbe, et qui a des visées très précises sur tout le nord de l'Empire byzantin.
Alors, c'est donc un empire affaibli, en plus. Un empire affaibli à cette époque.
Un empire menacé.
Menacé. Et puis, un empire qui connaît quand même une guerre civile autour, finalement, d'un problème de succession.
Exactement.
Parce que l'empereur Andronic III, paléologue, est décédé.
Voilà. À Byzance, vous avez beaucoup de querelles de succession. Et là, l'empereur Andronic III est décédé, donc. Jeune. Donc, son fils, qui devrait lui succéder... à 9 ans,
trop petit.
Un petit peu jeune pour devenir empereur de Constantinople. Et donc, il y a une régence, il y a sa mère, Anne de Savoie.
Hein,
c'était une princesse de Savoie, qui était devenue donc impératrice de Constantinople, de Byzance, qui fait une régence avec le patriarche, qui s'appelle Jean Calicas à l'époque, et avec le chef de Constantinople. Bon. Donc vous avez une sorte de triumvirat qui fait une régence, mais vu la situation de l'Empire, être gouverné par un triumvirat qui n'a pas une légitimité totalement établie et un gamin de 9 ans, ça ne rassure pas tout le monde.
Ça ne rassure pas tout le monde.
Ce qui fait que lorsque un grand général, qui en plus était un ami d'Andronic III, se laisse couronner empereur par ses troupes, il y a toute une partie de la population qui se rallie à lui. Mais la régence et le jeune Jean Paléologue ont aussi leurs partisans. Et c'est ainsi qu'on aboutit à une guerre civile entre les partisans de la régence, qu'on appelle les légitimistes, puisque c'est le fils légitime de l'empereur défunt, et les partisans du général Cantacuzène, qui pensent que seul un général victorieux peut sauver l'Empire.
Alors, je rebondis un petit peu sur cette question de légitimité du pouvoir, que j'ai trouvée tout à fait inspirante. Dans l'Empire romain d'Orient, cette question diffère complètement de ce qui est la norme, on va dire, dans les royaumes d'Occident, qui sont, eux, établis sur la succession familiale, donc c'est-à-dire sur les liens du sang, alors que dans le cadre de cet Empire romain d'Orient, l'empereur légitime, écrivez-vous, avait toujours été celui qui détenait le pouvoir.
Oui.
Quelle que fût la façon dont il l'avait obtenu, pourvu que l'Église le confirmât.
Oui, et ce qui explique la fragilité du camp paléologue, du camp du jeune prince, c'est que cette légitimité dynastique, elle est fragile à Byzance. Elle essaye de s'établir, mais elle n'est pas toujours sûre.
Et il y a des moments ou un moment où il faudrait qu'elle soit très sûre,
Le
contexte. On le comprend bien. Alors, pourquoi, Hélène Concourdeau, avoir situé votre roman policier historique en 1346 et à Thessalonique?
Ah, eh bien, il se trouve que depuis plusieurs décennies, je travaille à la biographie d'un personnage qui, moi, me semble très important, même s'il n'est pas extrêmement connu, qui est Nicolas Cabasilas, qui est un auteur spirituel, un théologien, mais aussi un homme politique, un juriste, etc. Et que, il se trouve que ce personnage a joué un rôle dans la résolution de la crise zélote à Thessalonique. Il était lui-même thessalonicien et il a joué un rôle. Donc, je l'ai rencontré quand j'ai travaillé sur les sources de cette crise zélote. Cette période, Thessalonique, sa ville natale, et cette crise zélote là en 1346, alors qu'il avait une vingtaine d'années, Nicolas Cabasilas, je l'ai beaucoup beaucoup étudié et j'ai eu vraiment envie de la faire vivre.
Alors, sans le comprendre, je vous interromps juste une seconde pour donc signifier à nos auditeurs que vous avez tout de même rédigé un ouvrage intitulé « Les Zélotes, une révolte urbaine à Thessalonique au XIVe siècle » aux éditions Beauchesne. Voilà.
Voilà. Et vous c'est savez de quoi en vous fait, parlez il s'agit...
de toute façon. Je continue, mais je vous laisse tout de suite la parole. Et ce travail que vous faites autour d'une biographie donc sur Saint-Nicolas Cabasilas, c'est quand même un travail de très longue haleine, une trentaine d'années, je crois, qui va bientôt paraître d'ailleurs.
Je crois, oui. Je l'espère.
Je vous redonne la parole.
Je l'espère. Non, voilà, je voulais simplement préciser que c'est donc la traduction de l'ensemble des sources que l'on a sur la crise zélote, parce que cette crise zélote, les historiens ne savent pas très bien quoi en faire, et je me suis dit, la seule solution, c'est qu'il faut traduire toutes les sources, et comme ça, on saura de quoi il s'agit.
Et de quelles sources s'agit-il alors?
Alors, vous avez des sources historiques, vous avez l'empereur Jean Cantacuzène, justement, ce général qui a pris le pouvoir, qui a écrit ses mémoires, bon, ses mémoires pour se justifier un petit peu de sa politique, mais bon, il a écrit un très gros ouvrage qui raconte un petit peu sa carrière. Donc, il décrit la crise zélote. Il a eu des témoins qui l'ont instruit parce que lui, par définition, il n'était pas là. Donc, c'est très important. Un autre historien, Nicéphore Grégoras, qui a fait une histoire de cette période, consacre aussi un passage à la crise de Zélote, et puis ensuite énormément de correspondances, beaucoup de lettres qui évoquent cette crise Zélote, qui donc donne des descriptions, des points de vue, etc.
Alors, il est vrai que, en fait, on s'interroge, qui sont ces Zélotes ? Parce qu'on parle beaucoup de zélotes depuis là, le début de l'émission, mais j'imagine nos auditeurs qui se disent « mais qui sont ces personnes ?»
Oui, alors ils s'appelaient eux-mêmes zélotes par référence aux zélotes de l'Antiquité qui étaient ces juifs qui voulaient délivrer la Terre Sainte des Romains.
D'accord.
Bon, mais c'est un mot grec qui veut dire « plein de zèle », donc ils s'appelaient eux-mêmes zélotes. Maintenant, personne ne sait exactement qui étaient ces zélotes. D'ailleurs, dans le roman, tout le monde passe son temps à se demander qui sont donc ces zélotes.
Oui.
Et les historiens se disputaient. C'est pour ça aussi que j'ai voulu prendre toutes les sources.
Oui.
Et au résultat, je ne sais toujours pas exactement ce que c'était que ces zélotes.
Mais vous prenez quand même un petit risque en disant que pour vous, il y a quand même deux catégories.
Oui, c'est-à-dire, voilà, on sait quand même des choses sur les zélotes. Tout d'abord, il y a une dimension politique. Les zélotes, ce sont des partisans du paléologue contre Cantacuzène. Ce sont des partisans de la régence. Ce sont des légitimistes. Voilà, ça, c'est la seule chose dont on soit sûr. Et puis, il faut replacer un petit peu ça dans l'histoire mondiale.
Oui.
À cette époque, aussi bien en Italie qu'en Flandre, vous avez de grandes révoltes urbaines. D'ailleurs, le grand historien médiéviste Michel Mola avait intitulé un de ses livres sur ces révoltes, les révolutions urbaines, donc des sortes de révolutions.
À relire peut-être aujourd'hui. Hein.
avec un aspect social extrêmement prononcé, un aspect économique et social. C'est-à-dire que c'est un moment où la société bascule d'une société de grands propriétaires fonciers, aristocrates, etc. Et là, c'est une économie un petit peu foncière, à une société commerciale avec la montée de la classe des marchands qui a une grosse importance économique et qui n'a pas de pouvoir politique et qui aimerait bien en avoir. Oui. Et puis, une très grande misère sociale qui fait que on a des gens qui veulent faire la révolution, quoi. Faire payer les riches, donner du pouvoir aux pauvres.
Voilà, d'ailleurs, donc, si vous le permettez, je vais citer un extrait de votre livre qui en parle justement de ce contexte, hein, qui donne une idée. Vous écrivez « Il n'était question que de vente à perte de terrains qui ne trouvaient pas acquéreur, de liquidation d'ateliers en faillite, de saisie des quelques biens qui restaient à un homme quand, après avoir vendu tout ce qu'il pouvait vendre, il ne parvenait plus à rembourser ses dettes. Tous ceux qui possédaient des terres autour de Thessalonique se retrouvaient ruinés. Quand les armées serbes ou turques, voire les troupes de Cantacuzène ne les occupaient pas, elles les laissaient entièrement ravagées, moissons brûlées, troupeaux décimés. À côté de ces désastres, les aristocrates des grandes familles de Macédoine qui possédaient des domaines dans des régions épargnées et les marchands qui commerçaient avec les Balkans, la Sicile ou l'Italie, arrondissaient leurs pelotes en rachetant à l'occasion tel terrain encore pourvu en villageois redevable de taxes juteuses. Mais les propriétaires ruinés et les artisans forcés de fermer boutiques se retrouvaient à la rue. Et vous allez même jusqu'à dire, on disait que le nombre de suicides à Thessalonique atteignait des sommets inconnus jusque-là, tout de même.
Et on a en particulier parmi ces élotes pour raisons économiques, vous avez une classe particulière, ce sont les marins. L'empereur Andronic II avait reconstitué la marine, marine marchande et guerrière, et militaire, et l'empereur suivant, par manque de liquidité, l'avait supprimé. Ce qui fait qu'on avait une grande quantité de marins qui se retrouvaient comme ça là, démobilisés, qui ne savaient pas quoi faire, qui n'avaient pas d'argent, qui ne savaient pas comment vivre, et qui étaient évidemment tout prêts à se battre pour arriver à vivre.
Bien sûr, on l'entend bien. Et donc tout cela va donner cette crise zélote hein, et qui va aboutir à un massacre. Donc là, on peut en parler puisque ça ne fait pas partie du roman policier en tant que tel. Oui. On ne dit rien, on ne divulgue rien sur le roman lui-même. Ce massacre a été terrible.
Alors, bon, il faut d'abord savoir qu'on n'a que le point de vue des massacrés, si j'ose dire. Ah. On n'a que le point de vue des ennemis des zélotes. On n'a aucune source venant des zélotes eux-mêmes. On a des sources de gens qui n'étaient pas complètement contre les zélotes, et puis on a des sources de ceux qui étaient résolument contre les zélotes, en particulier Jean Cantacuzène, puisque c'était le principal ennemi des zélotes, et on a sa version. Et puis on a des lettres aussi. On a Dimitrios Kidonis, qui est un ami de Nicolas Kabasilas et qui a écrit une grande monodie sur les morts de Thessalonique, où il décrit le massacre tel que je le relate. Alors, donc, un petit bémol, c'est la version des ennemis des zélotes. On n'a la version des zélotes.
C'est très frustrant. Hein. C'est très frustrant.
Ah, c'est très frustrant, oui. En fait, on n'a aucune source zélote. On a quelques sources de gens qui n'étaient pas contre, mais on a les zélotes eux-mêmes, je crois que la majorité, enfin beaucoup, ne savaient pas écrire, donc ils n'ont pas écrit.
Et oui.
Voilà, ça c'est donc le bémol que je voulais.
Alors, quand même, votre Nicolas Kabasilas, lui, il a vu en tout cas, il a assisté à ce massacre.
Oui, oui.
Il en parle dans ses écrits.
Un historien que je connais s'est même demandé si la source de Jean Cantacuzène, quand il relate ce massacre, si ce ne serait pas Nicolas Kabasilas. Ah. Parce que lui, forcément, y a assisté, puisqu'il a même été parti de... Enfin, il était un des personnages principaux de cet épisode.
Alors, donc, il était dans quel camp?
Alors, justement, à cette époque-là, il était dans le camp qui voulait donner... non, il était tout d'abord dans le camp des juristes. Et les juristes de Thessalonique, à ce moment-là, avant le massacre, était pour la régence, d'accord, parce que c'était pour eux le pouvoir légitime. Mais c'est après le massacre qu'ils ont viré de bord, les juristes, et ils sont devenus cantacuzénistes, d'autant plus que Cantacuzène a pris le pouvoir, donc c'était devenu le pouvoir légitime.
Bien sûr.
Voilà. Mais Nicolas Kabasilas, au départ, était disons, légitimiste. Il n'était pas forcément pour les zélotes, mais il était pour la régence. Voilà, il était dans le même camp politique que les zélotes.
Que les zélotes.
Mais il n'a pas dû apprécier.
Il n'a pas participé au massacre.
Ah non, il n'a pas participé au massacre. Il a même été une cible. Ah, il était une cible. Ouais. Parce qu'en fait, ce massacre a eu lieu lorsque une délégation est allée demander au fils de Jean Cantacuzène de prendre Thessalonique. Et donc, Nicolas Cabasillas faisait partie de cette délégation.
Et vous le faites intervenir, d'ailleurs.
Et donc, il était une cible pour les zélotes. Mais il a échappé. Et pour savoir comment il a échappé, je vous dirais, il y a un des personnages qui demande mais comment est-ce qu'il a pu échapper ? Peut-être que, allez savoir. Eh bien, pour moi, c'est allez savoir. On ne sait pas.
On ne sait pas.
Alors, j'ai inventé. Alors, voilà, j'ai inventé la façon dont il échappe à ce massacre.
Absolument, là c'est vraiment la romancière,
voilà,
et l'historienne
c'est une conjecture.
En tout cas, ce que vous dites de lui, il excelle grâce à ses talents de diplomate.
Ouais.
Là vous faites parler le juge, donc votre héros Thomas, qui dit de lui un pied dans chaque camp, une bonne connaissance de nos lois, de l'habileté et paraît-il une grande honnêteté et même de la piété. C'est une bonne combinaison.
Oui, ça, je suis d'accord.
Et là, vous êtes fait plaisir, là, on le sent. Hein.
Je suis d'accord avec le juge Thomas.
Alors, je vous proposerais peut-être de lire sur ce massacre, et après, on passera bien sûr à la suite, mais il est tellement, on l'a compris, fondateur du livre, et puis aussi de la suite, donc de ce qui va se passer. Donc, c'est page 246, et ça se lit vraiment comme si on y était, comme si c'était un film.
Oui, donc, exactement, voilà, oui. Alors, c'est en fait, quand j'ai lu les sources, en particulier sur ce massacre, j'avais l'impression d'être au cinéma.
Un film hollywoodien.
Et donc, j'ai beaucoup apprécié le fait de raconter
ce massacre.
Donc, ce massacre, en me fondant sur les sources.
Hein, bien entendu.
En brodant un petit peu pour... voilà, c'est quand même un roman, hein.
C'est quand même un roman.
Alors je lis. Un à un, les membres du conseil, c'est ceux qui ont décidé de rendre la ville à Cantacuzène. Et donc c'est vraiment, pour les zélotes, c'est désastreux. Les membres du conseil, dépouillés de leurs vêtements, furent hissés sur les remparts et précipités au bas de la muraille où les insurgés se battaient pour les achever. Des flots de sang commencèrent à ruisseler sur la terre, formant comme une boue gris rougeâtre. La même scène se répétait en d'autres points des remparts. Les blessés étaient impitoyablement achevés et dépecés. De la foule grondante, quelques rares silhouettes se détachaient. Des téméraires qui s'efforçaient de protéger l'une ou l'autre des victimes, tout en risquant d'être eux-mêmes pris à partie. Thomas se joignit à eux, tâchant de tirer à l'écart des blessés qui gisaient sur le sol. Alors qu'il se penchait à l'abri d'un buisson, sur un homme ensanglanté qu'il avait réussi à arracher aux griffes d'un malappris. Ce dernier l'avait reconnu et, impressionné malgré lui par la notoriété et l'autorité naturelle du juge, avait abandonné sa proie pour une autre. Ses mains, qui exploraient le corps à la recherche de la blessure, se trouvèrent doucement écartées par d'autres mains. Il tourna la tête et reconnut l'un des infirmiers de l'hôpital, celui-là même qu'il avait soigné, après la tentative d'étranglement qu'il avait subie. Il était couvert de sang, le sang des blessés qu'il avait secourus. « Montrez voir, » dit la voix douce de l'infirmier. « C'est ici. Il est en train de perdre tout son sang. Il faut stopper l'hémorragie. Juge Thomas, mettez votre main sur la plaie, ici, comme cela. Maintenant, comprimez fortement pendant que je prépare un bandage. » L'infirmier déchira prestement des bandes de sa propre tunique et les noua pour confectionner un bandage dont il ligatura la plaie. Le blessé, qui avait à demi perdu connaissance, gémissait doucement. « Je l'emmène à l'hôpital, » dit l'infirmier. « Il a besoin de soins que je ne peux pas lui donner ici. Essayez d'en trouver d'autres, juge Thomas. Je reviens dès que possible. » Le juge aida l'infirmier à caler le blessé sur son dos. Au moment de se frayer un chemin vers l'hôpital en tâchant d'éviter la foule déchaînée, l'infirmier lui adressa un sourire douloureux. « Je ne sais pas si nous serons encore vivants tous les deux ce soir. Alors bonne chance et que Dieu vous garde, juge Thomas. »
Alors voici un extrait donc du roman policier historique donc de notre invité d'aujourd'hui, Marie-Hélène Congourdeau, intitulé Le juge de Thessalonique.
C'est un street doctor.
Voilà, enfin sans faire d'anglicisme. Voilà, mais chose qu'on n'aime pas particulièrement à cette antenne, mais justement ce passage montre à la fois le massacre et à la fois il y a un autre élément dont j'aimerais que vous nous parliez, c'est la médecine à cette époque.
Oui.
Parce qu'on voit un infirmier quand même qui va sur le lieu du massacre et qui soigne.
En fait, bon, j'ai pas mal étudié le sujet de la médecine à Byzance. Et il y a quelque chose qu'il faut savoir, qu'on ne sait pas toujours, c'est que à Byzance, vous avez des hôpitaux qui sont des hôpitaux et pas des hospices comme en Occident. C'est-à-dire qu'un hôpital à Byzance, à cette époque, mais déjà depuis le VIe siècle, c'est un endroit où on soigne des malades et des blessés. Et donc, vous avez des médecins qui sont à l'hôpital et vous avez des infirmiers. Et donc, vous avez cet infirmier-là qui, ayant entendu parler du massacre, se précipite pour essayer de sauver le plus de monde possible.
Alors quand vous parlez de soins des malades, des blessés, c'est de toutes origines, hein, en plus.
Ah bah oui, vraiment, bien sûr. En fait, c'était gratuit. C'était subventionné, je pense, par l'Empire et par des mécènes, des aristocrates. Mais on accueillait absolument tout le monde sans faire payer. C'était vraiment l'hôpital pour toutes les souffrances. Voilà.
Sans la sécurité sociale.
Sans la sécurité sociale, oui.
Alors, je vous propose maintenant... je crois qu'il est temps de nous identifier, Michel. parole.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le livre journal des cultures et de l'exploration du mercredi 9 septembre 2026, dirigé par Pascal Maurer, c'était Michel. Le thème de l'émission est Un juge à Thessalonique au temps de l'Empire byzantin. Nous recevons aujourd'hui Marie-Hélène Congourdeau pour son roman policier historique, Le juge de Thessalonique, publié aux éditions Salvator. Vous pouvez adresser vos messages à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Et par exceptionnellement pas par téléphone, cher.
Il y a un certain Paul qui envoie un message. Bonjour à toute l'équipe. Reste-t-il encore des manuscrits byzantins dans les bibliothèques turques, dont certains à traduire et exploiter, ou bien tout a-t-il été transporté en Occident, bien courtoisement?
Et merci
puis,
beaucoup.
Un autre. Bonjour mesdames, ce qui est affligeant, c'est que les Turcs aujourd'hui fêtent la prise de Constantinople chaque année comme si on pouvait célébrer l'anéantissement d'une civilisation brillante et enracinée pendant 1000 ans. Je me souviens des interventions très intéressantes de votre invité sur France Culture le dimanche matin. Belle émission.
Merci beaucoup. Alors, pour vous donner la parole peut-être...
Le deuxième message me fait sourire parce que ça me rappelle des discussions, mais très, très, très amicales, que j'ai avec une cousine turque. Et moi, je parle de la chute de Constantinople et elle parle de la prise de Constantinople. On fait semblant de se disputer. Bon, évidemment, c'est voilà.
Oui, c'est ça fait penser.
Oui, c'est. Oui. Quand on est d'un côté ou de l'autre, on n'a pas le même point de vue,
non,
c'est normal.
Non, c'est sûr.
Et pour la première, pour le premier message,
sur les manuscrits byzantins dans les bibliothèques.
Il existe beaucoup de manuscrits grecs, mais essentiellement en Grèce.
Ah oui, en Grèce.
Dans les bibliothèques grecques, dans les bibliothèques de monastères, en particulier au Mont Athos, il y a énormément de manuscrits grecs. Et des archives grecques. Et il reste encore beaucoup de textes qui ne sont pas encore publiés, qui ne sont pas encore édités. Et parmi les textes qui sont édités, il y en a énormément qui ne sont pas traduits. Ils ne sont qu'en grec. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu traduire les sources des Zélotes, parce que je me dis que, étant donné que le grec est de moins en moins lu en France, je parle de la France, oui. De nos jours, si on veut que des étudiants s'intéressent à l'histoire de Byzance, bah, il faut traduire les sources.
Bien sûr, bien sûr.
Sinon, c'est fichu.
Et vous êtes précieuse dans votre travail. Et cela peut aussi peut-être donner d'autres vocations à des jeunes,
oui.
des jeunes diplômés, des jeunes étudiants,
oui, oui.
Parce qu'effectivement, il y a de quoi faire.
Il y a encore beaucoup de choses à traduire. Alors, il y a quelques textes qui sont traduits en allemand, en anglais, etc. Mais je pense que si on en traduit en français, c'est quand même... ça élargit le...
Bah, c'est quand même important.
Oui.
Surtout avec la grande école.
Voilà. Et surtout avec l'école byzantine.
L'école byzantine, voilà. Alors, passons à cette ville de Thessalonique, qui est quand même le cadre de l'intrigue du roman, voire un personnage. C'est la deuxième ville de l'Empire, et vous écrivez « La ville qui n'est esclave de personne et qui se détermine librement ».
Oui.
Alors, pourquoi et comment ?
Alors, ça remonte à la fin de l'Antiquité, où les habitants de Thessalonique ont toujours tenu à garder des privilèges qui donc sont extrêmement anciens et à garder une certaine détermination à se gouverner eux-mêmes. Et en particulier, il y avait une assemblée des citoyens de Thessalonique, il y avait un conseil de Thessalonique pour diriger la ville et il y avait en général, bon pas à cette époque-là, pas à cette année-là, parce que l'un des deux s'était fait assassiner l'année précédente, mais il y a deux gouverneurs à Thessalonique. Un qui représente le pouvoir central, c'est-à-dire Constantinople, et un qui représente les intérêts de la ville. Hein. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les privilèges de Thessalonique et auxquels les Thessaloniciens tenaient beaucoup.
Est-ce qu'on peut y voir un lointain rapport avec Athènes ?
Ça n'est pas totalement impossible. Un souvenir des cités indépendantes.
Des cités indépendantes, oui. Donc, oui. Byzance, autant. Alors, la configuration de cette ville. Déjà, c'est une belle ville.
Oui.
Et je vous propose peut-être de nous lire de nouveau un extrait où l'on voit le juge Thomas et Emmanuel, son neveu, qui joue un rôle très important aussi,
oui.
dans l'enquête, notamment. Regardez Thessalonique et s'émerveiller, c'est en page 87.
En
page 87, et c'est vrai que
voilà.
Vous l'écrivez très bien.
Donc Thomas et Emmanuel montent à l'Acropole, puisque Thessalonique est une ville en pente qui est couronnée par une acropole, c'est-à-dire une ville haute. Oui. Alors donc, à l'entrée de l'Acropole, Thomas et Emmanuel montèrent sur le chemin de ronde, en haut des remparts, qui dominait Thessalonique, parce que l'acropole, la ville haute, est ceinte de remparts. Là, tout en narrant à Manuel sa visite au protopapas de la Panagia et ses déboires auprès des voisins, le juge désigna d'un geste large la ville qui se déployait au-dessous d'eux, dévalant la pente le long de la montagne, s'étalant ensuite dans la plaine avant de rencontrer sa muraille, et aboutissant majestueusement au golfe étincelant de lumière derrière les remparts maritimes. Et alors là, c'est Thomas qui parle. « Regarde comme elle est belle, Manuel. Thessalonique, la perle de la chrétienté, pardon, la perle de la Romanie, c'est-à-dire de l'Empire byzantin. Regarde toutes ces coupoles d'églises, ces monastères entourés de jardins, ces maisonnettes serrées les unes contre les autres, ces grandes demeures ramassées autour de leurs cours intérieures, ces vignobles, ces vergers, cette agora là-bas, toute petite vue d'ici, mais si pleine de vie, bouillonnante d'activités diverses. Ce n'est pas étonnant si depuis des siècles notre ville attire des gens de toute la terre habitée. Elle est si accueillante, si généreuse, si pleine de vie et de culture. Fabuleuse Thessalonique. »
Voilà, donc cette magnifique ville,
oui.
Qui plus est, hein, ça c'est important, vous ne la faites connaître et,
oui.
et apprécier comme si on y était.
Je suis amoureuse de Thessalonique.
Ah voilà, tout s'explique. Alors, revenons sur, sur la configuration de cette ville avec le port. Et d'ailleurs, je continue un petit peu le dialogue. Oui. Donc Thomas qui dit à Manuel, le port existe-t-il au monde, un port aussi magnifique hein, avec sa rade protégée par le rempart maritime, ses digues qui l'enserrent comme deux bras, et cet immense quartier du bord de mer qui est comme une ville au flanc de la ville. Et c'est vrai que ce quartier des marins, en fait, il y a quand même toute une population. Hein. On voit qu'il y a à la fois des matelots, des rameurs, des quartiers maîtres, des trimoniers, marins-pêcheurs, mariniers de combat, tous les métiers liés à la mer, à la pêche, au commerce maritime et à l'artisanat naval étaient rassemblés là.
Oui.
Beaucoup, alors ça c'est aussi un élément que vous nous apprenez, beaucoup parmi les marins étaient issus d'unions plus ou moins légitimes entre des francs venus d'Occident à la faveur des croisades ou du commerce et des femmes de Romanie. On les appelait les gamoules.
Les gasmoules. Les gasmoules. Et en fait, ça fait un petit peu partie de ce mépris dans lequel sont tenus les marins. Ils ont une très mauvaise réputation. Ce sont des brutes. Mais en fait, c'est le regard qu'ont les autres Byzantins. Et ce sont les gasmoules, ce sont des gens qui sont issus de Byzantins et de Byzantines et d'Occidentaux. Voilà. Et donc, ils sont à moitié ennemis, quoi.
Paria ?
Ils sont mal vus, pardon.
Un peu paria, peut-être ?
Un peu paria, oui. Et en plus, comme beaucoup d'entre eux étaient des marins de guerre, faisaient partie de la marine de guerre, ils sont armés et puis ils sont
vigoureux.
Voilà, oui, c'est
et
ça.
Voire violents.
Voilà.
Aussi. Donc, on part donc de ce port. Il y a la ville basse.
Oui.
Alors, si on continue, il y a l'Agora.
Alors, l'Agora est dans la ville basse.
Elle est dans la ville basse. Deux petites minutes quand même sur l'Agora pour resituer les choses pour nos auditeurs. L'Agora, qu'est-ce que c'était ?
Alors, l'Agora, c'est à la fois une place publique, puisque c'est là que se réunit l'assemblée des Thessaloniciens. C'est là qu'on discute, etc. Puis c'est une place de marché. Donc, voilà, il y a beaucoup de commerce. C'est un petit peu comme l'Agora à Athènes, c'est-à-dire à la fois économique et politique. C'est là qu'on discute politique.
Alors, plongeons-nous un instant dans cette Agora. La place se remplissait peu à peu d'une foule de gens qui vaquaient à leurs affaires. On achetait, on vendait, on parlementait, on marchandait, on commentait les nouvelles, on discutait politique et théologie, on se querellait sur le prix du pain ou les malheurs des temps, on arrangeait des mariages. Des marchands d'étoffes déroulaient leurs ballots de couleurs vives et des vendeurs de légumes ailaient le chaland en vantant la fraîcheur de leurs choux et de leurs blettes. L'Agora donc jouait son rôle de lieu de rencontre, de commerce et politique. Alors l'Agora, donc la ville basse, après on monte.
Oui.
Il y a des escaliers.
Oui, oui.
Beaucoup, voilà, c'est une ville qui s'étage en fait.
Oui. J'ai parcouru Thessalonique en tous sens et je peux vous dire que ça monte.
Voilà, on dirait que je voulais vous entendre dire, parce que vous la décrivez tellement bien qu'on se dit, elle connaît la ville, c'est évident. Et ensuite, donc, effectivement, elle monte jusqu'au rempart donc,
de l'Acropole.
De l'Acropole, hein, cette Acropole, donc cette ville haute où habite
La crème de la société.
D'accord.
Voilà, et puis la citadelle, là où il y a la garnison qui garde Thessalonique et le gouverneur.
C'est ça, donc la citadelle aux sept tours.
Aux sept tours, Heptapyrgion.
Impressionnant.
Ouais.
Cette tour, c'est tout de même énorme. Ouais.
On a toujours les ruines de ces sept tours. C'est très impressionnant.
Oui. Ah oui, ouais. Elles existent
toujours.
Et en
même temps, on voit un petit peu comment Thessalonique a eu des jours difficiles parce que dans les murs de ces sept tours, il y a beaucoup de pierres de réemploi où on voit des pierres qui ont été réemployées avec des bouts d'inscriptions, avec des choses comme ça. Ouais. Donc on voit que financièrement, ça n'a pas toujours été rose.
Ça n'a pas toujours été Byzance.
Oui, oui.
On peut dire.
Absolument.
Ensuite, alors, donc vous parliez du le gouverneur donc, qui vit retranché dans cette citadelle, dans son palais. Hein, parce que donc, lui, c'est le représentant du pouvoir civil.
De Constantinople.
De Constantinople, mais à côté. Alors, qui n'est pas logé, basé à cet endroit-là, mais à côté, il y a un autre pouvoir qui est très important aussi, c'est celui du métropolite et de son palais. Alors, qui est le métropolite ?
Oui, alors, le métropolite, c'est-à-dire l'archevêque, en fait, hein, qui dirige l'église de Thessalonique, à cette époque, il a été nommé par le patriarche. Or, le patriarche, à cette époque, c'est un des trois de la régence. Donc, il est très favorable à la régence. Et donc, il pourrait être favorable aux zélotes, puisque les zélotes sont pour la régence, mais il ne sait pas trop comment appréhender ces gens qui ont très mauvaise réputation. En plus, c'est un nouveau métropolite, parce que le métropolite précédent est mort. Il a été remplacé par quelqu'un qui a été nommé par le patriarche de Constantinople et qui ne connaît pas du tout Thessalonique. C'est pour ça qu'il est très, très content de recevoir le juge Thomas qui va pouvoir enfin le renseigner.
Le renseigner. Donc,
métropolite Hyacinthe.
En dehors des hommes, de ces hommes-là en l'occurrence, il y a un équilibre des pouvoirs
entre le gouverneur et le patriarche, et il faut qu'ils soient d'accord pour que ça marche.
C'est ça.
S'ils ne sont pas d'accord, c'est très compliqué.
Il y a un intermédiaire qui...
Alors oui, c'est un diacre de la métropole, qu'on appelle le référendaire, et c'est lui qui fait la liaison entre le métropolite et le gouverneur. Et en général, il porte un papier où il y a rien du tout, quoi, où il y a des banalités, mais l'essentiel, c'est oral.
Ah.
C'est-à-dire qu'il a un message à délivrer qui n'est pas écrit. Parce qu'un message écrit, on pourrait le perdre et ça peut être embêtant.
Et oui, et voilà. Comme on dit...
Donc c'est un personnage très important.
Les écrits restent.
C'est un diacre, mais...
un personnage très important,
très important.
Ça, faut le souligner, parce qu'on le verra après, mais c'est
un personnage... Et dans le roman, c'est aussi un personnage du roman, très important.
Très important. Alors, on a un message donc, d'un autre auditeur. Ah, je suis désolée. Bon, il a mal compris, manifestement, quelle est l'origine, la cause de la crise économique qui a ruiné tant de paysans, artisans, marins, classe moyenne, et en fit des zélotes. D'où provenait, s'il vous plaît, cette faillite? Y eut-il des cathares à cette époque dans l'Empire romain byzantin?
Alors ça, c'est deux questions très différentes.
Voilà, alors on prend la première.
Voilà.
D'où provenait cette faillite?
Pour la première question, c'est simple. Il y a deux éléments très importants. Le premier, c'est que toute cette période, y compris en Occident, c'est une période de mutation où on passe d'une économie féodale, enfin je veux dire terrienne, agricole, à une économie de marché, en fait. Il commence à y avoir tous les banquiers italiens, le commerce a de plus en plus d'importance.
Les foires.
Etc. Ouais. Et donc, comme toute période de mutation économique, eh ben, y a des gagnants et des perdants. Hein. Et voilà, et donc ça explique que c'est un des facteurs de cette crise économique. Et puis la deuxième, c'est que Byzance est quand même un empire assiégé de tous côtés, qui a perdu énormément, c'est le siècle où elle perd l'ensemble de l'Asie mineure.
Oui, c'est important tout de même.
Voilà, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup des aristocrates de l'empire, avec de grands territoires en Asie mineure, qui leur rapportaient énormément. C'est un grand territoire agricole, l'Asie mineure. Et donc, ils sont ruinés.
Oui.
Puisque c'est les Ottomans. Il y a les Serbes aussi qui viennent du nord, qui grappillent aussi des terrains. Donc, tout ce qui est propriétaire terrien est ruiné. Hein. Et puis, les guerres, ça n'a jamais été très favorable au commerce.
Bien sûr. Hein.
Il y a des bateaux de commerce qui sont arraisonnés, qui sont coulés, etc. Donc, et puis, Thessalonique aussi est entourée de troupes. Il y a les troupes de Cantacuzène, il y a les troupes il y a des Turcs aussi, il y a les Serbes. Donc c'est une ville qui est presque assiégée. Enfin, je veux dire, on arrive encore à entrer et sortir, mais pas beaucoup.
Donc, dans une
et
ville les routes assiégée, sont coupées. C'est sûr que l'économie n'est pas florissante.
Et donc
c'est
voilà,
évident.
Tout ça explique que l'économie...
En ce qui concerne la deuxième question de cet auditeur, y eut-il des cathares à cette époque dans l'Empire romain byzantin?
Alors, on ne sait pas si ce sont... Enfin, on n'est pas sûr qu'il y ait des relations vraiment avec les cathares d'Occident, mais des bogomiles, c'est-à-dire des sectes dualistes qui pensent qu'il y avait un dieu bon, un dieu mauvais, quelque chose qui ressemble un petit peu aux théories cathares, disant que beaucoup de gens ont été accusés, il y a même eu un procès au mont Athos de moines qui étaient accusés d'être des bogomiles. Hein. Donc l'hérésie à cette époque, même à Thessalonique d'ailleurs.
Ah oui.
Oui, ça j'en parle pas dans le roman, mais effectivement il y avait des hérétiques ou des gens que l'on disait être hérétiques, plus ou moins en lien avec des bogomiles de Bulgarie. Voilà, ça existe, ça existe. Mais on est très peu documenté, ce qui fait qu'il y a beaucoup de discussions entre historiens sur est-ce qu'il s'agissait vraiment de bogomiles, est-ce qu'ils avaient des liens avec les cathares. Tout ça, c'est encore en discussion.
C'est encore en discussion.
Donc la question n'était pas totalement... En dehors.
En dehors, bah, eh bien, merci beaucoup, cher auditeur. Alors, je vous propose d'écouter un bobino très important pour notre radio, suivi d'un extrait musical.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr. Et podcast.rc.fr.
Christos Anesti ek nekron Thanaton, Thanaton Patissas Και της έντης μνήμασι Ζωήν αρισά Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατον πάτησας και της έντης μνήμασι ζωήν αρισάμενος. Χριστός Ανέστη Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν αρισάμενος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατον πατήσας.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le livre journal des cultures et de l'exploration du mercredi 9 septembre 2026, dirigé par Pascal Maurer, assisté Michel. Le thème de l'émission est « Un juge à Thessalonique au temps de l'Empire byzantin ». Nous recevons Marie-Hélène Cogourdeau pour son roman policier historique « Le juge de Thessalonique », publié par les éditions Salvator. Alors vous pouvez, merci de vos messages, vous pouvez adresser vos messages à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Voilà, et non pas
un petit message
alors, un autre
que nous
message.
Avons reçu de Titus.
Oh.
Bonjour mesdames, je me souviens d'un voyage à Thessalonique il y a plus de 15 ans, avec l'immense mausolée de Galère, je crois, transformé en basilique à la coupole en mosaïque où se distinguent des anges en pied et une grande fissure au mur. Dû à un tremblement de terre. Belle émission.
Merci beaucoup, cher auditeur.
Oui, il y a eu beaucoup de tremblements de terre à Thessalonique dans l'histoire. Et il y a des églises comme celle-ci qui sont magnifiques.
Alors les églises, parlons-en,
oui.
Parce qu'il y a aussi de très nombreuses coupoles, de très nombreuses églises magnifiques, décorées. Et au cœur de ces églises, il y a celle... La plus importante, Saint-Dimitrios.
Oui.
Alors, elle l'est parce que c'est Saint-Dimitrios. Et là, vous allez nous expliquer qui il était.
Ouais.
Et aussi parce que l'intrigue se passe aussi en partie, ou en tout cas débute, dans cette église.
Dans cette église, oui. Voilà. Donc, les églises de Thessalonique et l'église de Saint-Dimitrios, que malheureusement nous n'avons plus, puisqu'il y a eu justement un tremblement de terre au début du XXe siècle, et que un incendie à Thessalonique au début du XXe siècle, ce qui fait que l'église actuelle de Saint-Dimitrios est une église moderne.
Ah, quel dommage.
Bon, faite dans le style byzantin,
mais ce n'est pas la même.
Alors que l'on a beaucoup d'églises de l'époque encore à Thessalonique, mais Saint-Dimitrios, non. Alors, Saint-Dimitrios est donc un martyr romain, de la période des grandes persécutions. Il était de Thessalonique où ses reliques ont été, on ne sait pas exactement, transportées à Thessalonique. Toujours dit-il que ses reliques se trouvent à Thessalonique, sous Saint-Dimitrios, du moins à cette époque, et il y a un culte de Saint-Dimitrios qui est fondamental, parce que c'est le saint protecteur de la ville. Il a arrêté une peste au VIe siècle, il a arrêté je ne sais combien d'attaques d'ennemis, il a sauvé sa ville je ne sais combien de fois.
C'est Sainte-Geneviève pour Paris.
Voilà, c'est le Sainte-Geneviève de Thessalonique. Et ses reliques sont là, et de ses reliques coule une huile parfumée, une huile sainte, comme un petit peu comme le Saint-Crème, si vous voulez, une huile sainte qu'on appelle le myrrhone, et le myrrhone de Thessalonique fait des miracles. Le myrrhone de Thessalonique, le myrrhone de Saint-Dimitrios de Thessalonique guérit des malades, il permet aux guerriers de Thessalonique de remporter des victoires, il défend sa ville, et donc c'est très important.
Alors vous écrivez d'ailleurs que c'est le trésor de Thessalonique.
Oui.
Vous dites, on le recueillait dans des flasques, on en noyait les malades, on se racontait les guérisons opérées par ces huiles sacrées. Au cours des siècles, des foules de pèlerins étaient venus se prosterner devant le tombeau du grand martyr. Ils en repartaient et emportaient de petites ampoules pleines de précieux baumes.
C'est lourd, des lourdes.
Lourd, oui, c'est ça.
Voilà. Et justement, d'où le roman l'église de Saint-Dimitrios est...
On peut peut-être en parler, ça ne nous empêchera pas de continuer de parler d'autre chose, mais parlons à ce moment-là de l'intrigue. Oui, absolument, parce que nos auditeurs doivent se demander aussi de quoi parle-t-on finalement.
Pourquoi parle-t-on de Saint-Dimitrios? Eh bien, parce que le roman commence par la découverte, par un diacre de Thessalonique, de la disparition des objets liturgiques du culte de Saint-Dimitrios dans son église, et aussi du myrrhone. Les objets disparaissent, le myrrhone disparaît,
La grande icône aussi de Saint-Dimitrios.
Icône de Saint-Dimitrios a disparu, on ne sait pas où c'est passé, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, et on a très très peur que la population soit affolée quand elle apprend que les objets liturgiques du culte de Saint-Dimitrios, le myrrhone, tout cela disparaît. Est-ce que ça veut dire que Saint-Dimitrios a décidé de déménager?
Eh oui, et de les quitter,
est-ce qu'il
les abandonner.
Est-ce qu'il quitte Thessalonique? Parce que s'il quitte Thessalonique, on est perdu. D'où l'importance de retrouver ces objets, ce myrrhone, et de savoir qui les a pris et pourquoi. Voilà, c'est le début de l'intrigue.
C'est le début de l'intrigue.
Ben oui.
C'est le début de l'intrigue. Pour en revenir à l'aspect religieux, spirituel, j'aimerais qu'on évoque, parce que vous en parlez aussi dans votre roman, d'une querelle qui commence à cette époque-là, qui est la querelle autour de la prière hésychaste, dite querelle palamite.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette querelle?
Alors, voilà. Disons qu'à la fin du XIIIe siècle, il y a eu un renouveau d'une pratique spirituelle qui remonte au Père du désert, et qui était de prononcer indéfiniment une simple phrase, « Seigneur Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi ». Voilà. Et cette pratique spirituelle donc connaît un renouveau à la fin du XIIIe siècle. Cela s'étend surtout aux moathos. Et des moines qui pratiquent cette prière continue disent que cela leur fait entrevoir la lumière de la divinité.
Divinité qui était avant très éloignée.
Oui, mais enfin, je veux dire qu'il n'est pas visible.
Oui. Oui. Hein,
que voilà, que l'on on parvient à voir la lumière de la divinité. Et donc cela rappelle une antique hérésie, le messalianisme, qui disait qu'on pouvait voir Dieu, participer à Dieu, etc., et à son essence.
Très bien.
Et donc, on crie à l'hérésie, enfin, certains crient à l'hérésie, voilà, le retour des messaliens. Et un moine du mont Athos, qui pratique cette prière, entreprend d'en faire la théologie pour montrer que ça n'est pas hérétique. Et il dit, ben voilà, en Dieu, il y a son essence qui reste totalement inaccessible, mais il y a aussi ses énergies, ses opérations, c'est-à-dire qu'il peut nous faire participer à sa lumière, à sa douceur, etc. Donc cette distinction entre, en Dieu, l'essence et les énergies. Du coup, les adversaires de cette prière disent...
Et du moine, en l'occurrence, qui s'appelle Grégoire Palamas.
Et voilà, oui, c'est important. Il s'appelle Grégoire Palamas, voilà. Et c'est un très grand saint de l'Église orthodoxe, encore maintenant. Hein, il y a un culte de saint Grégoire Palamas.
D'ailleurs, cette prière, c'est ce qui a donné lieu à ce qu'on connaît sous la prière du pèlerin russe.
Exactement, c'est cette prière-là.
C'est orthodoxe.
Voilà, parce que tous les textes les textes antiques qui décrivent cette prière ont été réunis au XVIIe siècle dans un livre à Venise qui s'appelle « La Philokalie des Pères Neptiques ». Et c'est ce livre que le pèlerin russe, donc au XIXe siècle, lit. Et voilà. Bon, donc, Grégoire Palamas avait donc élaboré cette théologie qui distingue l'essence, d'où, de la part de ses adversaires, crier aussi à l'hérésie, c'est du polythéisme. Il y a l'essence divine, et puis il y a la lumière divine, et puis il y a la douceur divine, et puis il y a etc., etc. Donc c'est tout un tas de divinités. Alors là, on est au tout début de cette querelle qui va prendre des proportions énormes. Au bout d'un moment, quelques dizaines d'années après, l'Empire va être complètement divisé entre ceux qui sont pour Palamas et ceux qui sont contre Palamas. Bon. Mais là, on est au tout début, donc il y a des gens qui pratiquent cette prière et d'autres qui les attaquent.
Et dans la rue,
il y a vraiment
des bagarres de rue.
Oui, mais de toute façon, à Byzance, on a toujours discuté beaucoup de théologie dans les rues. Hein, la théologie, ça fait partie de la vie. Hein, c'est
très bien. On voit donc. Alors maintenant, je pense que nos auditeurs ont une bonne idée du climat.
Je voudrais juste ajouter à propos de Grégoire Palamas, c'est que comme le général Jean Cantacuzène a pris parti pour Grégoire Palamas, du coup, les partisans de Cantacuzène sont pour Palamas, mais les adversaires de Cantacuzène sont totalement contre Palamas. C'est-à-dire que le brave Grégoire Palamas se retrouve embarqué dans cette guerre civile, sans l'avoir voulu, quoi.
Absolument, absolument. Donc, alors, il y a cette guerre civile épouvantable, comme on l'aura compris, mais ce qui n'empêche pas, finalement, Thessalonique d'être aussi le siège d'une renaissance intellectuelle éblouissante. Et vous m'aviez confié, certes, on peut parler de début de période de décadence, notamment, de l'Empire, hein, mais vous... préférez l'expression de chant du cygne.
Oui, parce que en fait, je crois que Byzance a rarement été, au point de vue intellectuel et artistique, aussi rayonnante que au moment où ces territoires fondent et où elle est attaquée de partout et en pleine crise, etc. On a au XIVe siècle. D'abord, bon, ça vient probablement du fait qu'on a reconquis l'Empire sur l'Empire latin de Constantinople. Oui. Voilà. Donc, une sorte de renouveau. Et ça a entraîné une sorte de renouveau intellectuel où les Byzantins de cette époque se sont remémorés qu'ils étaient des Grecs et que donc ils étaient les héritiers directs de la grande civilisation grecque. Et ils se sont mis à rechercher et à recopier des manuscrits des anciens Grecs, en philosophie, Platon, Aristote, en rhétorique, Démosthène, les tragiques grecques, tout ce qui fait la grandeur. Et puis la médecine grecque, Hippocrate, tout ce qui fait la grandeur de la civilisation grecque antique, ils se le sont
réapproprié.
Voilà. Et on a énormément de manuscrits. Il y a beaucoup de textes grecs antiques que l'on ne connaît que grâce à des manuscrits qui ont été copiés au XIVe siècle et beaucoup à Thessalonique. On copiait, voilà, à Thessalonique, à cette époque-là, on copiait beaucoup de manuscrits. Et j'ai parlé de la littérature, de la philosophie, de la médecine. Il y a aussi les mathématiques, hein, oui. Euclide, etc. Et le droit.
Voilà.
Voilà.
Et le droit.
Il y a à cette époque à Thessalonique une école de droit, une école où on recopie les anciens manuels de droit qui datent de qui remontent à Justinien,
oui. hein,
et puis
oui.
tous les ouais. empereurs qui ont rajouté etc. Et il y a surtout à cette époque-là à Thessalonique des gens qui vont faire en sorte que cet énorme corpus de droit soit pratique, puisse être appliqué.
Compilé en
ça,
quelque sorte.
Compilé hein. par ordre alphabétique, par ordre thématique, de façon à ce que les juges puissent savoir, dans cet énorme fatras de loi, ouais. laquelle s'applique à tel point particulier. Ouais. Voilà. Et donc, on a beaucoup, beaucoup de manuscrits qui recopient, enfin qui nous donnent plutôt, transcrivent les anciens manuels du droit. Et on a deux grands juristes thessaloniciens de cette époque, qui apparaissent d'ailleurs dans le roman, je n'ai pas pu m'en empêcher, et qui sont Mathieu Blassaris.
Donc pour le droit canon.
Pour le droit canon, voilà. Il a fait un recueil alphabétique, donc...
Imagine, mais le travail gigantesque.
Un travail de j'allais dire de Romains.
Oui, de Romains.
Ce sont les Romains.
Ce sont les Romains.
Et puis, pour le droit civil, Constantin oui. Arménopoulos, oui. qui apparaît aussi donc, dans le roman, et qui a donc fait un manuel qui est... pratique, je veux dire, que l'on peut appliquer. Et ce manuel de Arménopoulos a servi de code de droit lorsque, au XIXe siècle, les Grecs se sont libérés de l'Empire ottoman, qu'ils ont fondé à nouveau un État grec. Ils n'avaient pas de code de droit puisqu'ils venaient de l'Empire ottoman.
Oui.
Et ils ont pris ce code de Arménopoulos, qui a servi de code jusqu'à ce qu'ils en aient un moderne. Voilà,
c'est
donc
incroyable.
C'est très important.
Et c'est fondamental.
C'est fondamental.
Et c'est, vous le citez comme ça dans votre livre, mais en fait, ça a une importance fondamentale
oui,
pour
oui.
la suite.
Oui, oui.
C'est votre art aussi d'arriver à faire passer des choses, on se dit oui, on le lit, mais d'où l'importance aussi, je pensais de vous inviter pour vraiment que vous puissiez expliquer à nos auditeurs vraiment tous ces aspects-là.
Oui.
Parce que quand on a ça en tête...
Parce que c'est pas connu.
Voilà, et quand on a ça en tête, on ne lit pas votre livre de la même façon, de toute façon. En ce qui concerne la bibliothèque juridique, il y a un moment, je vais le lire peut-être pour vous laisser un petit peu reposer votre voix. Au sortir du logis, donc de la nourrice, le juge, notre juge Thomas, notre héros, se dirigea vers le monastère de Kir Isaac. Il savait pouvoir y trouver une bibliothèque riche en documents de toutes sortes où il comptait faire des recherches. Le monastère n'était pas loin, il y fut en quelques minutes. Les moines le connaissaient et l'introduisirent dans une salle dont les quatre murs étaient presque entièrement recouverts d'étagères croulant sous les grimoires, les vieux livres et les liasses de papier grossièrement liés. Des piles de livres s'entassaient également sur des pupitres où des moines s'affairaient à copier des textes de loi et de jurisprudence.
Oui.
On les voit bien.
Hein. Ah, on les voit.
On y est.
Bah, je vais vous dire, en parlant de cette bibliothèque, j'ai repensé au nom de la rose. Ah bah oui, c'est une bibliothèque.
J'y ai pensé aussi en noir, vous disant. J'y ai pensé aussi.
Voilà, donc c'est transparent.
Voilà, mais sans aucun rapport, sinon,
non,
en ce qui concerne...
Non, aucun rapport entre les intrigues.
Les intrigues, et voilà. Et puis, vous évoquez aussi l'importance de l'enseignement du maître spirituel, et notamment d'un maître spirituel, donc dans le roman, dénommé Isidore. Alors, oui. je vais le lire aussi, et après, vous nous direz peut-être des petites précisions. Je crois que, voilà, je n'ai pas dit. Là, il s'agit du neveu, en fait, de Thomas, de son meilleur ami, Angelos, et à qui, ce moine enseigne. Alors, qu'est-ce qu'il enseigne? Alors, si j'étais à la bonne page, ça serait quand même plus pratique. Chers auditeurs, j'y arrive. Voilà. Alors, le moine Isidore leur avait enseigné les rudiments de la grammaire grecque, la ritournelle des déclinaisons et des conjugaisons. Isidore ne se contentait pas d'enseigner à ses élèves la morphologie et la syntaxe. Il leur faisait découvrir les merveilles de la langue grecque à travers les homélies de Saint Jean Chrysostome, celui qu'on appelait « bouche d'or », tant son verbe était apte à marier le lyrisme à la rhétorique pour pénétrer par les oreilles jusqu'au plus profond du cœur. De là, Isidore passait à la théologie et, couronnement de son œuvre pédagogique, à l'apprentissage de la prière. J'aimerais vous entendre sur Jean Chrysostome, justement.
Ah oui, alors Jean Chrysostome, c'est un père de l'Église grecque, qui a vécu au fin 4e siècle, et qui est donc un des prédicateurs les plus convaincant, les plus lyriques, on l'appelait bouche d'or, Chrysostome.
Oui, c'est ça, voilà, vous dites.
Voilà, et donc c'est un très très grand père de l'Église grecque.
Vous avez lu ces...
Oui, j'ai même traduit. C'est Jean Chrysostome, oui. C'est très beau, Jean Chrysostome, parce qu'il s'adresse à son public, il est affectif, il est vivant... Il a des images qui parlent. Moi, j'aime énormément le style de Saint-Jean Chrysostome.
Il pourrait tout à fait nous faire des homélies aujourd'hui. Enfin, on pourrait les relire.
On peut les relire. Je ne sais pas si ça passerait à l'oral, ces homélies, parce que c'est quand même le style de l'époque. L'Antiquité. Mais on peut les lire et il y a des images. Et je repense là à quelque chose qui m'avait frappé dans une de ces homélies où il parle des vierges folles qui n'avaient plus d'huile pour leur lampe. Et Jean Chrysostome leur dit « Mais l'huile, allez en acheter, mais où ?» Eh bien, c'est très simple. Les pauvres qui sont à la porte de l'église, ils en vendent. J'avais trouvé ça extraordinaire comme idée.
Ah oui.
Voilà, donc Jean Chrysostome.
Et d'ailleurs, oui, alors, ce que vous m'avez appris, c'est que le moine Isidore... a existé.
Ah, il a existé, oui.
Et
oui.
Il a eu aussi un rôle avec votre
Isidore.
Enfin, pas votre personnage, avec votre saint, Nicolas.
Oui, alors c'est le premier maître spirituel de Nicolas quand il était adolescent. Bon, ça, on n'a pas de source qu'il dit, mais sauf que son enseignement à lui reflète tellement bien l'enseignement d'Isidore tel qu'on le connaît, que, bon, les dates correspondent, il était jeune quand Isidore enseignait, etc. Donc, bon, il n'y avait pas 36 maîtres qui enseignaient comme ça à Thessalonique à cette époque. Donc, je pense que c'est le premier qui a initié Nicolas Cabasilas à la spiritualité.
Et j'avoue que j'admire votre façon d'entremêler vraiment fiction et réalité historique. Vraiment, vous le faites... non, vraiment.
Et alors, cet Isidore Boukir... Boukir, c'est son nom de famille. Il a été un disciple de Grégoire Palamas. Quand Grégoire Palamas a été emprisonné, parce que comme Cantacuzène était pour Palamas, du coup, la régence était contre. Donc, il a été emprisonné. Et Isidore a été emprisonné avec Grégoire Palamas. Donc, il connaît. Oui. Bon, il y avait une vraie connexion entre Isidore et Grégoire Palamas. Isidore, ensuite, après que Cantacuzène a... Parce que bon, je spoil la suite. C'est Cantacuzène qui a gagné la guerre civile.
Ça, je pense qu'on l'a compris déjà.
Quand Cantacuzène est devenu empereur, il a choisi Isidore pour devenir le patriarche de Constantinople.
Voilà. Très bien.
Donc, c'est un des patriarches de Constantinople.
Donc, un personnage vraiment important. Voilà. L'enseignement, à l'époque, vous dites que Thessalonique, en plus, il y a vraiment des professeurs exceptionnels. Hein. Vous dites que les professeurs exceptionnels ne manquaient pas. Ouais. Et là, on se dit, quelle chance. Et l'enseignement, au sujet de l'enseignement de l'éducation des filles,
oui.
On voit qu'elle s'était pris en compte.
Oui. Ben, bon, beaucoup de questions. Oui.
Allez-y,
alors,
je vous en prie.
Tout d'abord, l'enseignement lui-même, l'enseignement primaire, l'enseignement élémentaire, était très répandu à Byzance. Beaucoup de Byzantins savaient lire, hein, alors qu'en Occident, à la même époque, oui. Il n'y en avait pas beaucoup de gens qui savaient lire, même les couches les plus basses de la société. Et on a des traces de filles qui suivaient l'enseignement. Alors, j'en ai profité pour dire que Thomas, forcément, le juge Thomas, qui a été enseignant avant d'être juge,
enseignait
aux filles.
Ouais, ouais.
Et en fait, on a des traces. On sait que Isidore a été accusé d'avoir dévoyé des filles en leur enseignant, et du coup, elles quittaient leur famille. Bon, c'est une médisance, je suppose, oui. Comme il y en a beaucoup, mais ça prouve qu'il enseignait à des filles aussi.
Absolument. Alors, nous avons un message de toujours notre auditeur qui vous remercie d'avoir répondu à ces deux questions précédentes. Alors là, il nous demande, l'Église catholique a énergiquement, euphémisme entre parenthèses, combattu et parfois persécuté les réfractaires et hérésiarques individuels ou courants d'hérétiques, souvent jusqu'à leur disparition totalement. L'Église byzantine fut-elle autant, disons-le, énergique, voire cruelle contre ses dissidents et hérétiques? Nous ne savons absolument rien sur ce point. Voilà. Et deuxième question, existe-t-il une personne autant érudite et ce qui était précieux de culture et de langue grecque et turque, comme l'était le regretté Stéphane Hierasimos, pardon pour la prononciation.
Hierasimos, oui. Quelle est la question alors?
Alors, la question, existe-t-il une personne autant érudite donc que ce Stéphane Hierasimos de culture et de langue grecque et turque?
Oui. Il y a beaucoup, en particulier de byzantinistes. Il y a une école byzantiniste grecque qui est très, très... Voilà, qui est... J'ai des collègues grecs qui sont extrêmement érudits et avec lesquels je travaille et qui sont vraiment très...
En tout cas, nous avons une byzantiniste de langue française qui est tout à fait érudite également.
Mais en fait, c'est une communauté internationale. Oui, l'histoire byzantine, il y en a dans pratiquement tous les pays et vraiment, c'est une communauté qui a ses rivalités, comme toutes les communautés intellectuelles et universitaires, mais avec une collaboration aussi très, très forte. Et on a beaucoup de collaboration avec les collègues grecs en particulier.
Aussi, très bien. Les marchands vénitiens, on voit que, bien sûr, le commerce se fait. Il y a un consul aussi qui est très raffiné. Il y a le quartier des marchands vénitiens. Et on voit notamment qu'ils sont assez spécialisés dans les merveilles dans l'enluminure de reliures.
Oui. C'est particulier à ce concil, à ce consul. Hein.
Ah, c'est particulier à ce consul, d'accord.
Non, le commerce était surtout du commerce textile. Hein, entre Venise et Thessalonique, c'était surtout du textile. Mais un consul vénitien, c'est quelqu'un de très cultivé, et celui-là est très fin, et je me suis beaucoup amusée parce qu'il a à la fois un petit côté un peu apprêté, un peu affecté, etc., mais beaucoup de bonne volonté, quoi. C'est
à la fois
un petit peu de mépris envers ces Byzantins qui se querellent tout le temps, c'est très mauvais pour les affaires, etc., mais il est cultivé, il aime les beaux livres. Et il apprécie le juge Thomas. Et finalement, le juge Thomas l'apprécie aussi.
Il l'apprécie aussi, voilà.
Oui.
Vos personnages ne sont ni blancs ni noirs. C'est vraiment... c'est ça qui est savoureux finalement. Parce que c'est... Alors,
en général,
à l'intrigue. Donc, on a dit des objets sont volés. Donc, des objets liturgiques. Ouais. Donc, dont la grande icône de Saint Dimitrios et surtout le Miron.
Ouais.
Et puis, et ce n'est pas tout, on parle de romans policiers. Donc, il y a un meurtre.
Eh ben oui, il y a un meurtre. Le chef de la garnison de Thessalonique, c'est-à-dire le chef de qui assure la sécurité de la ville. Alors, en pleine guerre civile, vous imaginez l'assassinat du chef de la garnison.
C'est une bombe.
Oui, alors du coup, Thomas, qui s'occupait un petit peu en dilettante de ces histoires d'objets qui disparaissent, etc., là c'est beaucoup moins rigolo. Hein, c'est sérieux, et donc il va rechercher activement qui a tué le castrophylax, c'est-à-dire phylactère, c'est le gardien. Castrone, c'est le château, la forteresse. Oui. Donc le gardien de la garnison, le chef de la garnison de Thessalonique, c'est quand même un personnage important.
Et vous employez là des termes que vous nous expliquez. Je voulais souligner aussi le fait qu'à la fin de votre livre, donc en annexe, il y a un glossaire très très utile et tout à fait opportun. Tout comme il y a aussi une annexe historique avec les dates également. Et puis une rapide généalogie simplifiée parce qu'on parle de paléologues notamment, chers auditeurs. Donc vous vous dire oh là là, on s'y perd un peu. Tout cela est bien précisé. Donc c'est important vraiment de lire, peut-être même avant ces annexes, parce que je pense que c'est un outil, en tout cas, pour mieux profiter. Ça aide énormément. Donc, des objets volés, un meurtre. Est-ce qu'on peut dire aussi que dans l'intrigue, il y a un troisième fait, c'est-à-dire une mystérieuse lettre qui a disparu ?
Eh oui. En fait, lorsque Thomas enquête sur la mort du castrophylax, la femme du castrophylax, la veuve du castrophylax, lui dit... mais il avait reçu une lettre et c'était très important. Il la relisait, mais en fait, il ne pouvait pas la lire parce que ce n'était pas en grec. Ce n'était pas des caractères grecs. Et donc, Thomas en conclut que ça devait être du latin. Et alors, cette lettre en latin, elle a disparu. Or, la clé de ce meurtre, ça ne peut être que cette lettre puisqu'elle a disparu au moment du meurtre.
Bien sûr.
Et donc, on va chercher la lettre pendant très 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 longtemps.
Et oui.
Parce qu'elle a la clé. La clé du mystère se trouve dans cette lettre et cette lettre a disparu. Ah oui.
Et oui. Donc, chers auditeurs, si vous voulez connaître les tenants et les aboutissants ensuite de cette
lettre.
Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ?
Pourquoi elle a disparu ?
Eh bien, procurez-vous Le juge de Thessalonique de Marie-Hélène Concordeau chez Salvatore. Parlons maintenant des personnages. Oui. Donc, on en a déjà parlé un peu, mais il y a en fait deux catégories. Il y a donc les personnages fictifs avec notre juge, le juge Thomas Kyriadikis, on va revenir à lui, puis aussi des personnages historiques.
Oui.
Pareil, il y a aussi en fin d'ouvrage cette liste, donc qui permet un petit peu de bien se repérer. Revenons donc à notre juge, donc à ce héros qui va mener l'enquête. C'est pas une coïncidence que vous ayez choisi un juge de toute façon pour mener une enquête, ça va un peu de soi.
Oui. Bon, il y a plusieurs raisons. Bon, la première, c'est que en fait, Nicolas Cabasillas, je pense qu'il a dû être juge, parce que
revient à lui.
Oui, on revient toujours à Nicolas Cabasillas. Je reviens toujours à Nicolas Cabasillas. En fait, on a beaucoup de textes juridiques sous sa plume qui montrent qu'il connaissait très bien les lois byzantines. Il cite même dans ses écrits des lois qui ne sont pas connus du tout venant, quoi, qui ne peuvent venir que d'un juriste. Donc, je pense qu'il était juge. Donc, un juge, c'était important pour moi. Et puis, il y a cette école juridique de Thessalonique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et quand il s'est agi de trouver un détective, pour moi, ça ne pouvait être qu'un juge.
Parce que vous aimez aussi vous-même, vous êtes une fervente lectrice de romans policiers,
je crois,
historique aussi, mais pas à la même époque.
Non, pas à la même époque et pas au même endroit. Non, je suis une fan absolue du frère Cadfael, le moine bénédictin du 11e siècle, si mes souvenirs sont bons, en Angleterre.
En Angleterre. Il y a un petit côté d'ailleurs, moine Cadfael, avec le juge Thomas, parce qu'on voit qu'il a la soixantaine, le visage rond, encadré de cheveux courts, d'un gris argent, d'une barbe soignée.
Je me soupçonne d'avoir été influencée par Derek Jacobi, qui, dans une série sur Cadfael, interprète Cadfael. Parce que je crois bien que j'avais sa tête dans mon esprit quand je décrivais
Merci voilà. pour cette confidence, Marie-Hélène. Merci. Donc, il est très intelligent, bien sûr, on l'a vu, on s'en est rendu compte, il est très intègre. Et puis, pour lui, la notion juridique de justice oui. est vraiment fondamentale. Oui. C'est la notion de l'article 1er du Code justinien, oui. en son sens premier, c'est-à-dire que c'est la mise en œuvre de l'égalité.
Voilà, voilà. C'est ça. C'est la première phrase du Code justinien, c'est le mot... de justice, non, le mot de du droit en oui. latin, jus,
jus, oui.
Vient de justice. Voilà. Oui. Et en grec, ça donne le nom du droit, dikaion, oui. vient de dikaiosune, la justice. Donc pour lui, le droit est au service de la justice, et la définition même de la justice, c'est ce qui permet l'équité. C'est-à-dire l'égalité devant la loi entre tous les... pas les citoyens, hein, c'était pas des citoyens dans un empire, enfin tous les sujets de l'empire.
Les sujets de l'empire, hein, absolument. Alors on peut peut-être parler aussi de son neveu Manuel, on l'a un peu évoqué Manuel. Quand même, son neveu qui est orphelin et finalement dont il s'occupe. Hein. Oui, il a une très belle relation avec lui et Manuel revient de Constantinople, donc ça c'est très bien parce que ça vous fait parler justement de Constantinople à
voilà,
cette époque
aussi. Et en fait... au départ, bon, il a pris son indépendance, Manuel, après. Mais au départ, quand j'ai commencé à le concevoir, c'était un petit peu, pour moi, c'était un petit peu Nicolas Cabasilas. Et donc, Nicolas Cabasilas est revenu à Thessalonique après ses études à Constantinople. Et quand je décris ce retour, j'avais en tête les lettres par lesquelles Nicolas Cabasilas décrit ses études à Constantinople. En fait, ça a été ma source pour les études de Manuel à Constantinople.
Et alors, Manuel est très ami avec un autre jeune homme, oui. Angelos.
Angelos.
Alors, qui lui est un jeune aristocrate.
Oui, oui. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ce sont vraiment des très bons amis.
Oui.
Manuel est prêt à donner sa vie pour Angelos à un moment.
Parce que l'amitié est aussi un élément important de votre roman policier historique.
Oui. Ouais. Et donc, Angelos. Angelos est pour Cantacuzène. Angelos est un aristocrate,
oui.
un aristocrate ruiné,
oui.
mais un aristocrate. Il est pour Cantacuzène, à fond.
Oui.
Il est même très très attaqué par les zélotes à cause de ça. Manuel, lui, vient de Constantinople. Et Manuel, à Constantinople, il y a la régence. Donc, il est plutôt pour la régence. Il est plutôt pour Paléologue,
et
puis
ouais.
pour l'impératrice, puis en plus il y a le patriarche, donc pour lui c'est évident qu'il est du côté paléologue.
Mais ça ne va pas abîmer leur relation quand
Non,
même.
Pas du tout. Voilà. Ils sont amis, ils sont vraiment amis, ils sont prêts à donner leur vie l'un pour l'autre.
Comme on le verra dans la suite du roman. Et vous nous avez parlé aussi du diacre référendaire, et là en l'occurrence
Théodore.
Il s'appelle Théodore Malakinos.
Oui.
Et on va voir qu'il a un rôle actif.
Oui, oui. C'est un personnage très complexe.
Très complexe.
Très complexe, oui. Je l'aime beaucoup, hein, Théodore, mais il est très complexe.
Alors, il y a un autre personnage, mais Benoît me fait signe que nous n'avons plus qu'une minute, même pas. Donc, un personnage, un chevalier normand, Gauthier de Saint-Germain.
Et il y a aussi un chevalier normand.
Voilà. Alors, écoutez, nous voilà, chers auditeurs, arrivés malheureusement à la fin de cette émission. J'espère que nous vous aurons donné envie de vous plonger dans ce roman policier historique fort bien rédigé et de grande qualité. Donc, je rappelle les références, le juge de Thessalonique, donc de Marie-Hélène Congourdeau chez Salvator. Grand merci à vous. Grand merci,
merci
à vous, Marie-Hélène.
À vous.
Merci, Michel. Merci, Benoît, à la technique. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et vos nombreux messages. Je vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour une émission consacrée au Proche-Orient de nouveau, mais d'une autre façon. À très bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des Cultures et de l'Exploration, dirigé par Pascal Morère, assisté de Michel, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mercredi 9 septembre 2026, de 14h à 15h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.